Il y a quelques années, le podcasting était séparé en deux fratries très différentes. La première, c'était les gens qui font de la radio et qui redistribuent le contenu de la radio sous forme de podcasting. Et de l'autre côté, bien, il y avait les indépendants. Mais même à l'intérieur de ce groupe-là de podcasteurs indépendants, il y avait deux groupes différents, deux groupes séparés. D'un côté, les gens de marketing, les gens qui se servaient de ce médium-là comme moyen de promouvoir quelque chose. Et à côté de ça, les vrais indépendants, entre guillemets, qui, eux, se servaient de ce médium-là pour soit pour remplir un vieux rêve de faire de la radio, soit pour communiquer une passion ou autre, mais c'était très, très, très artisanal dans un sens. Ça pouvait sonner très bien assez souvent, mais ces gens-là ne se sentaient pas concernés par la radio qui produisait des podcasts et ne se sentaient pas non plus concernés par les marketeurs. Il y avait vraiment une scission entre ces fratries-là. Maintenant, tout ça a beaucoup évolué. Les années ont passé, mais aussi la démarcation, la limite entre le podcasting indépendant, le marketing, la radio traditionnelle, ces limites-là sont beaucoup plus floues. Il y a maintenant des podcasteurs qui font quelque chose qui ressemble énormément à de la radio traditionnelle, c'est juste pas disponible sur les ondes hertziennes. Il y a aussi de l'autre côté des radios qui produisent du contenu un peu moins formaté, un peu plus près du podcasting indépendant. Et là, plus ça va, bien, il y a aussi une question de modèle d'affaires. Il y a quelques années, c'était considéré par les podcasteurs indépendants comme quelque chose de sale de faire de l'argent. Ils faisaient du podcasting pour le plaisir de le faire, de la même façon qu'on fait tout autre hobby. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. C'est beaucoup plus accepté. Et non seulement ça, aujourd'hui, on félicite les gens qui réussissent à gagner des sous avec ça. Tout ça a évolué en même temps que les médias sociaux, à l'époque où est-ce que Facebook et Twitter étaient moins présents. On observait plus les blogs, on zieutait plus ce que les gens faisaient, et on scrutait tout ça, on analysait beaucoup. Et là, ben, si on avait le malheur de faire des sous, c'était très mal vu, tout ça. Maintenant que tout le monde s'est déplacé, l'attention s'est déplacée ailleurs, maintenant que c'est devenu beaucoup plus commun de faire des sous, maintenant que la publicité nous envahit partout sur Internet, c'est rendu extrêmement banal. Et honnêtement, si vous voulez mon avis là-dessus, si c'est pour donner du meilleur contenu, ben, je suis totalement en faveur du fait de faire de l'argent. Bienvenue au Québec en balado-diffusion. En passant, mon nom est Sylvain Grandmaison et j'ai pour vous cette semaine un épisode spécial sur la publicité et la rémunération pour le podcasting. En fait, je parlais de toutes les façons de faire de l'argent ou presque avec le podcasting. Restez là, ça risque d'être intéressant. N'oubliez pas que si vous appréciez mon podcast, allez tout de suite dans iTunes, allez mettre 5 étoiles et ajoutez votre commentaire. Pour moi, vos commentaires, vos étoiles, c'est mon salaire et ça me permet de continuer. Mais commençons tout de suite dans le vif du sujet. Si vous voulez faire de l'argent avec votre podcast, c'est pas essentiel, mais il y a quelque chose qui est quand même important, c'est de produire du contenu de qualité. Si les gens vont mettre de la publicité dans votre podcast ou si des gens vont accepter de donner des sous pour que vous continuiez à produire, il faut à quelque part qu'ils trouvent leur compte. Donc, il faut qu'il y ait de la qualité. Et la qualité, c'est pas nécessairement de sonner comme la radio. C'est pas nécessairement non plus d'être hyper, hyper structuré. La qualité, c'est quoi? C'est d'être un bon communicateur, peut-être. Peut-être si vous faites un podcast humoristique, que vous ayez de bonnes blagues, évidemment. Il faut qu'à quelque part, quelqu'un y trouve son compte. C'est sûr que le premier irritant, dans le cas du podcasting, c'est souvent quand votre podcast ne sonne pas très bien. Et moi, je vous conseille de régler ça tout de suite, dans le sens que si votre podcast sonne bien, on va se concentrer beaucoup plus sur le contenu et il n'y en aura pas de problème. Donc, je vous conseille d'investir dans l'équipement audio de qualité. C'est pas nécessaire de s'équiper d'une interface audio à 400, 500 $ et c'est pas nécessairement là que vous devez nécessairement investir. L'endroit où investir, c'est souvent la source. C'est mieux d'investir beaucoup plus au début de la chaîne qu'à la fin de la chaîne. Comme par exemple, si vous achetez un micro Shure SM58, par exemple, à 140 $ incluant la livraison sur Amazon, par exemple, et vous avez soit un petit mixeur ou soit un petit préampli qui peut vous coûter pas très cher. Vous savez, il y a des mixeurs USB, deux entrées micro pour 115$ sur Amazon. Ou sinon, il y en a même un à 62$. C'est vraiment, vraiment pas cher. Pour 200$, on sonne super, super bien. Donc, vous pouvez avoir, si vous investissez environ 300$, vous allez avoir 75% de la qualité audio de mon podcast pour environ 15% de ce que j'ai payé, ce qui peut être une bonne option pour vous si vous voulez vous mettre à faire du podcasting. Je vais revenir plus tard là-dessus sur ce sujet-là de la qualité audio, mais je trouve que c'est important quand même quand on parle d'argent, quand on parle de podcast qui sonne vraiment professionnel et que les gens payent. Je pense que c'est important d'aller là-dessus. Donc, si vous voulez que je vous conseille justement un micro Shure SM58, une petite console Behringer, par exemple, la Xenix 302 USB à 62$, c'est vraiment dur à battre. Et ça vous permet vraiment d'avoir une préamplification de votre micro, un son quand même d'assez bonne qualité et une entrée USB pour votre ordinateur. Sans plus tarder, je vais vous parler des différentes façons de faire de l'argent. La première, c'est en mettant des publicités sur le site. En fait, c'est la méthode vraiment traditionnelle de faire de l'argent avec un site web. Une publicité, format texte ou format image, vous pouvez avoir des bannières. Vous pouvez mettre des pubs AdSense de Google, quoique c'est de moins en moins efficace. Il y a de plus en plus de gens qui ont des ad blockers. Mais ça peut être une façon d'avoir un revenu régulier si vous avez plusieurs publicités. Personnellement, mon site de podcast n'est pas un site qui est très, très consulté. Ça fait en sorte que j'ai eu deux chèques de 100$ sur une période d'environ 7 à 8 ans, ce qui est assez mince, comme on pourrait dire. Mais si vous avez un site, vous développez un contenu qui fait en sorte que votre site est très visité, ça peut être une option intéressante. Vous pouvez aussi mettre de la publicité dans les publications, donc intégrer des recommandations publicitaires. C'est de plus en plus fait par les blogueurs. Donc, c'est une autre façon de mettre de la pub sur votre site. Il y a aussi les codes promo au niveau publicitaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit de l'annonceur un code promo. Le code promo, on peut l'afficher sur le site web. On peut aussi en parler dans notre podcast. Un bon exemple de ça, c'est GoDaddy qui offre des codes promo qui permettent de réduire le prix d'achat de nom de domaine pour 5-10%, ou ça peut être aussi en dollars. Bref, ils ont des codes promo comme ça. pour les gens qui achètent un nom de domaine, c'est un rabais. Et pour vous, bien, il y a de l'argent qui vous revient. On reçoit un pourcentage des ventes. Parce que le code promo est unique à vous, bien, ça fait en sorte que c'est facile pour GoDaddy de savoir d'où vient cette recommandation-là. Sous la forme publicitaire, il y a aussi le cas des Affiliate Programs, donc les programmes affiliés. C'est un programme sur mesure pour votre podcast par un vendeur. Donc, on devient en quelque sorte une forme de porte-parole. Qu'est-ce qui peut bien fonctionner quand on a un Affiliate Program comme ça? C'est peut-être d'avoir un système de newsletter comme ça pour garder les gens au courant des nouvelles promotions, des nouveaux produits. C'est sûr que ça fonctionne bien quand le produit ou quand le style de choses qu'on offre va avec notre type de contenu. C'est important de proposer des contenus aussi, des produits auxquels on croit ou qui ont un lien avec le podcast qu'on produit. Et c'est ce qui apporte souvent le plus de revenus, les affiliate programs. On endosse en quelque sorte le produit et ça fait en sorte que ça fonctionne bien comme publicité. Une deuxième façon de recevoir des bénéfices de son podcast, ben c'est pas nécessairement une façon de recevoir de l'argent sonnant, mais on peut recevoir des choses, c'est-à-dire obtenir des produits ou bien des services, donc des gratuités. Par exemple, de l'équipement relié au podcasting si vous êtes un podcaster, par exemple un enregistreur numérique, un meilleur micro, une unité de compression pour le son, etc. Ou relié au sujet de votre podcast, comme par exemple, si vous avez un podcast de photographie, vous recevez de l'équipement de photographie, ça peut être assez intéressant. Il y a différentes choses qui sont offertes aux podcasters, l'hébergement de fichiers audio, des billets de spectacle. Si vous avez un podcast plus spécialisé, par exemple, vous êtes un foodie, bien là, vous êtes souvent invité à participer à des événements, et avoir, bon, de la bouffe gratuite en quelque sorte, en échange d'en parler. Donc, c'est une façon amusante et intéressante. Moi, ça m'est déjà arrivé par le passé, justement, d'obtenir des billets de spectacle en parlant ou en faisant un tirage comme ça. La troisième façon que j'ai répertoriée de faire de l'argent, c'est de mettre de la publicité dans les épisodes. Donc, les recettes sont partagées entre la régie publicitaire, ceux qui font le placement publicitaire, et le podcaster. Ça fonctionne comment? Bien, il y a différentes façons de faire de la publicité dans les épisodes. La première, c'est du cost per mile, donc du coût par 1000 téléchargements. Donc, c'est l'unité de mesure en podcasting pour les publicités audio dans les podcasts. Le nombre de fois que le fichier est téléchargé ou qu'il est écouté dans le cas d'un podcast qui serait écouté sur le site ou bien en streaming à partir d'une application. La moyenne en podcasting, selon mes recherches aux États-Unis, c'est autour de 30-35 $ du 1000 téléchargements. C'est quand même assez élevé, c'est à peu près presque le double de ce que YouTube demande en moyenne pour l'année 2016. Ils ont annoncé les tarifs, je crois que c'est en décembre, et c'était 18 $ du 1000 téléchargements contre une moyenne de 30-35 $ du 1000 téléchargements. Évidemment, tout cet argent-là ne va pas dans les poches du podcaster. C'est partagé entre la régie publicitaire et le podcaster, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste aux producteurs de contenu? Dans le cas de YouTube, c'est très mince. C'est souvent 2-3 $ du 1000, parfois moins. Dans le cas de YouTube, c'est plus payant avant Noël et avant l'été, comme la pub traditionnelle. Par contre, le podcasting, c'est plus stable. La valeur du placement est plus stable. Pourquoi? Bien, parce qu'on ne vend pas nécessairement un produit qui est saisonnier. On vend un produit qui est relié directement au contenu. Donc, ça fait en sorte que le prix est plus stable Et c'est aussi plus payant pour le podcaster parce que les régies publicitaires sont moins gourmandes que YouTube. Il reste souvent plus de 10$ du 1000 téléchargements dans le cas d'une publicité qui a été placée à 30-35$ du 1000. Les types de publicité qu'il y a dans les podcasts, bien, il y a les pre-roll, les mid-roll et les post-roll. La publicité qui vaut le plus cher, c'est un mid-roll. Pourquoi? Parce que c'est une publicité qui est en plein milieu et lorsqu'on est en plein milieu, puis on entre dans le sujet, l'auditeur est plus concentré et comme on est déjà en train d'écouter l'émission, on accepte mieux d'avoir à écouter une pub sans l'avancer nécessairement parce que souvent on est en train de faire autre chose, on est en train de conduire, on est en train de pratiquer une activité physique ou peu importe. Donc, les mid-roll valent plus cher, souvent le double des pre-roll ou des post-roll. Le pre-roll, c'est la moins chère. Pourquoi? Mais parce que les gens commencent à écouter le fichier, ils ont les doigts sur les boutons dans l'application et ils avancent la plupart du temps. On s'est rendu compte, par contre, les publicités qui sont en post-roll sont moyennement chères. Les gens les écoutent plus, étrangement, que les publicités qui sont au début, parce que vu qu'on a la satisfaction d'avoir écouté l'émission, des fois, on la laisse rouler jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'autre podcast commence. Comme ça, ça fait en sorte que les publicités qui sont à la fin ont une valeur moyenne qui est un peu entre les deux. Souvent, les publicités dans les podcasts sont dictées par le podcaster lui-même. C'est une façon de faire qui fait en sorte que les gens qui écoutent la publicité font plus confiance, ont plus tendance à acheter, répondent beaucoup mieux qu'une publicité traditionnelle. C'est aussi pour ça que les publicités dans les podcasts sont beaucoup plus efficaces que les publicités sur YouTube. C'est aussi pour ça que la valeur est là. Les gens répondent énormément aux publicités dans les podcasts parce qu'il y a une relation d'intimité quand on se fait parler comme ça dans l'oreille. Et il y a aussi une notion de confiance. On fait plus confiance à un podcaster qui nous dit la vérité, qui n'est pas nécessairement backé par une grosse machine radiophonique où est-ce qu'il doit faire attention à tout ce qu'il dit. Donc, on fait confiance à ces gens-là et c'est plus agréable aussi. Une publicité qui est dictée par notre podcaster préféré, de sa façon de faire, c'est le fun. Moi, personnellement, j'aime bien entendre les publicités que fait Marc Maron sur son podcast « What the fuck ». On le sait que c'est une publicité, on l'entend, il y a souvent une petite musique, il y a un ton différent, plus « upbeat ». Et on le sait que c'est une pub, mais il y a une façon de la livrer, très drôle, puis il y a le même langage cru que dans le reste de son émission, donc on y croit. L'autre façon de calculer les revenus publicitaires dans les publicités, dans les épisodes, c'est ce qu'on appelle du cost per acquisition ou CPA. Donc c'est une publicité où grâce à un code promo, je reviens au code promo tout à l'heure, les auditeurs ont droit à un rabais ou un bonus et où le podcasteur obtient une récompense monétaire pour avoir fourni un nouveau client à l'entreprise. Dans ce cas-ci, j'ai donné tout à l'heure l'exemple de GoDaddy. GoDaddy, c'est sûr que si on achète un nom de domaine à 15$, ce n'est pas un gros achat. Et ce n'est pas un achat qui sera, ça revient tous les années, mais la compagnie ne se retrouve pas avec un client qui va dépenser régulièrement. Des noms de domaine, ce n'est pas quelque chose qu'on achète à toutes les semaines. Par contre, la compagnie Audible fait beaucoup ça et faut savoir qu'un nouveau client, selon ce que je sais, rapporte autour de 25$ au podcaster ou à l'annonceur. Donc, si c'est partagé entre la régie publicitaire et le podcaster ou si ça va directement au podcaster, c'est 25$ par nouveau client qui s'abonne, qui achète de quoi. Mais c'est sûr que le taux de gens qui font le move, comme on dit, d'acheter n'est pas énorme. Donc, ça peut être impressionnant, 25$, mais s'il y en a juste 3 par mois, ça ne fait pas un énorme revenu. Il y a aussi le système de régie publicitaire, donc des entreprises qui font le lien entre les annonceurs et les podcasters. Il n'y en a pas vraiment au Canada. Il y en a quelques-unes aux États-Unis. La plus populaire s'appelle Midroll, justement. C'est la compagnie qui fait affaire avec la plupart des grands podcasteurs. Marc Maron, c'est un bon exemple. Les gens de, je pense, de Gimlet Media aussi. Tous ces podcasts-là extrêmement populaires aux États-Unis, la plupart font affaire avec eux. Comment ça fonctionne? Bien, ce qui est intéressant pour l'annonceur, c'est que l'annonceur arrive sur le site de Midroll, rentre les informations, dit « j'ai une pub », les informations à passer, c'est ça, ça, ça. Donc, ils fournissent quand même du texte de base que le podcaster peut adapter quand il va le dire. Et ils peuvent sélectionner par catégorie. Comme par exemple, si on a un annonceur qui vend des articles de cuisine, on peut dire « mets de la pub dans les podcasts de bouffe ou les podcasts de jardinage » parce que quand tu fais du jardinage, ben, tu crées des légumes, donc tu vas avoir besoin de choses pour les cuisiner. Et on choisit le nombre d'impressions, le nombre de downloads et là, ben, il y a toutes sortes d'autres paramètres qu'on peut rentrer. Donc, c'est assez efficace parce que c'est extrêmement, extrêmement ciblé. Si on n'a pas de régie publicitaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut vendre à la pièce de la publicité dans nos podcasts basé sur ce coût moyen-là, donc d'environ 30 $. L'argent peut revenir directement dans vos poches. Il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de podcasteurs qui placent plusieurs publicités dans leur podcast. Ils placent des fois 2 publicités au début, 3 au milieu, 1 à la fin. Faites le calcul, ça peut devenir intéressant si vous avez des milliers de téléchargements. C'est sûr que la difficulté, si on vend la pièce, c'est de courir après les annonceurs et surtout au Québec, ici, leur expliquer c'est quoi un podcast, leur expliquer les bénéfices, tout ça. Ça peut être, comme on dit, time-consuming, mais si vous connaissez des gens qui seront prêts à annoncer, bien, au moins vous avez une idée de la valeur d'un podcast. On peut aussi interpeller les auditeurs pour qu'ils placent de la pub sur nos podcasts. On voyait ça au début du podcasting, vers les années 2004 à 2008 environ. Et là, ça revient. Surtout les gens connus qui ont un podcast qui est très populaire, on peut faire ça. Donc, ça permet des fois de faire découvrir notre site web ou autres services. On peut aussi produire du contenu sponsorisé, comme on dit, du contenu publicitaire payé où la ligne est mince entre le vrai contenu du producteur de podcast et le contenu publicitaire. Un peu comme dans les magazines, on voit des fois ceci est un contenu publicitaire payé. Donc, la même chose, le même phénomène existe avec le podcasting depuis pas si longtemps que ça, depuis peut-être 2 ans que ça devient vraiment très populaire. La majorité des gens ne font pas la différence entre les deux contenus, par contre. Donc, c'est à faire attention. Il y a un problème d'éthique là et ça peut tourner en vrille assez rapidement si les gens se sentent lésés puis si on commence à se faire bâcher sur Internet. Donc, il y a justement Gimlet Media qui se pose la question, qui essaye de produire du contenu sponsorisé comme ça, donc de créer des émissions de podcasting pour un annonceur, mais eux, ils veulent que la ligne soit extrêmement, extrêmement claire. Alors que l'annonceur, ce qu'il veut, c'est que ça ne paraisse pas, que ça vient d'eux. L'annonceur voudrait que ça se retrouve sur le site du producteur de podcast, que ça soit annoncé comme un de leurs podcasts. Donc, c'est quand même un sujet touché, le contenu sponsorisé. On peut faire aussi de la pub pour nos propres services, donc direct. Si on parle de quelque chose et qu'on dit ouvertement qu'on vend nos services pour le faire, c'est une façon de faire une pub, ce que j'appelle la pub directe. Par exemple, si on est courtier en placement, puis on parle de fonds de placement, bien, on va réussir à obtenir sûrement des clients grâce à ça. Moi, j'avais un ami qui s'appelle Christopher Penn aux États-Unis qui travaillait pour le Student Loan Network. Il donnait des conseils de placement, des conseils sur le remboursement des prêts étudiants, des conseils financiers de tout acabit pour les étudiants. Et ben, à chaque année, les gens demandaient pour, si ma mémoire est bonne, pas loin de 30 millions de prêts. 30 millions, calculer les intérêts, ça c'est à chaque année qu'ils demandent, puis l'autre année, c'était quand même énorme. On peut aussi faire de la pub que j'appelle indirecte. Donc, on parle d'un sujet relié à ce que l'on fait et les clients achètent. Par exemple, on fait un podcast sur la menuiserie et on a une chaîne de quincaillerie. Donc, on ne vend pas des services de menuisier, mais on vend tout ce qu'il faut pour faire de la menuiserie. Donc, c'est un peu indirect, mais en même temps, ça va rapporter parce que si justement on parle de menuiserie, on parle de technique, de tenon et mortaise, d'un outil en particulier pour faire les mortaises. C'est sûr que ben, si c'est produit par la quincaillerie XYZ, on va aller là se présenter pour obtenir cet outil-là. On peut promouvoir nos propres produits. Donc, j'ai parlé plus des services, mais là, si on parle des produits, donc si on a un site sur Etsy, puis qu'on vend nos toiles, on vend différentes choses qu'on fabrique, ça peut être intéressant. Par exemple, quelqu'un qui se passionne pour une certaine forme d'artisanat, qui parle de technique, tout ça, pour fabriquer ses objets et qui a une boutique sur Etsy, ça peut être intéressant puis ça peut être assez rémunérateur. Donc, ça fait le tour de toutes les formes de publicité que je connais directement imbriquées dans les épisodes. On pourrait croire que la publicité dans les épisodes et la publicité sur le site de notre podcast couvriraient l'ensemble des façons de faire de l'argent avec le podcasting, mais il y a d'autres façons de faire de l'argent avec le podcasting. La première, c'est la rémunération directe. Ce que j'entends par rémunération directe, c'est là où les auditeurs paient d'une façon ou d'une autre, de façon volontaire, pour obtenir le contenu qu'on produit. Il y a par exemple le tip jar, donc les gens laissent quelques dollars par mois et c'est récurrent. C'est une façon simple à mettre en place et facile et les gens qui apprécient beaucoup notre contenu, ça leur permet de participer à la réussite de notre show. La meilleure façon, c'est d'être récurrent. On peut le faire ce qu'on appelle one shot, donc un seul paiement annuel. La seule chose, c'est que ça fait un plus gros paiement, donc c'est un frein de plus bien souvent pour les gens. Si c'est récurrent, on demande quelques dollars, les gens ne s'en rendent pas compte et une bonne façon qui est très, très insidieuse, mais qui fonctionne, c'est d'avoir un paiement récurrent qui est auto-renouvelable. Vu que ce n'est pas un gros montant, les gens parfois oublient de le désactiver puis ils continuent à le payer. Et bon, ben, tant mieux pour nous. Je voudrais vous parler par rapport à ça, The Power of 99. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'en ai peut-être déjà parlé à l'émission. On s'est rendu compte, puis ça c'est une technique qui fonctionne depuis assez longtemps. On s'est rendu compte à un moment donné dans l'histoire que lorsqu'on vend quelque chose à 99 sous plutôt qu'à 1 $, les ventes augmentent, mais augmentent pas un peu là. On parle du double, du triple même de ventes lorsque le prix finit par 99. Donc, vendre quelque chose à 4,99 au lieu de 5 $, on va avoir deux fois plus de ventes qu'à 5 $. Donc, c'est une bonne façon d'établir nos prix. Lorsqu'on fait ce genre de choses-là. Il y a Patreon qui permet de mettre en place ce genre de structure-là, de sponsoriser nos podcasters préférés. Il y a Tom Merritt, un gars que j'ai rencontré quelques reprises à Podcasters Across Borders, un événement qui avait lieu ici en Ontario. Et Tom Merritt, c'est qui? C'est un gars qui travaillait avec Léo Laporte, Léo Laporte de This Week in Tech. Et actuellement, il fait 7 000 $ par mois juste avec Patreon. Faites le calcul, c'est pas très très loin de quoi 90 000 $ par année. C'est beaucoup de sous quand même. Et tout ça, c'est sur une base volontaire. Il y a aussi le sous-financement qui permet de faire produire ou de faire réaliser des podcasts. On peut faire une campagne sur Kickstarter. J'en ai déjà vu quelques-unes, par exemple, comme pour 99% Invisible. En fait, Radiotopia, qui est sous l'aile de la radio publique américaine, fonctionne beaucoup comme ça. Ils vont en sous-financement. Ça leur permet de développer des nouveaux podcasts qui sont souvent même pas disponibles sur les ondes hertziennes. Justement, en ce moment, il y a un concours qui sera le prochain podcast, la vedette de Radiotopia. Je vais sûrement vous en parler à une prochaine émission. Il y a aussi la rémunération indirecte qui est une bonne façon de faire des sous. C'est là où les auditeurs paient pour des produits ou une expérience reliée au podcast, mais ne paient pas directement pour les fichiers audio. Par exemple, on peut vendre des produits dérivés du podcast, comme des t-shirts, des casquettes ou autres. À l'époque, il y avait Tiki Bar TV, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ils vendaient des verres pour les drinks, des calendriers de l'équipe avec la très sexy Lala. Et différentes choses comme ça. Actuellement, ça revient en force, cette façon de faire-là. Il y a Adam Carolla qui vend Mangria, un genre de sangria, un produit alcoolisé. Donc, c'est une bonne façon. C'est aussi une façon, la rémunération indirecte, d'amener des gens, par exemple, si on est humoriste, à notre spectacle. Mark Maron faisait beaucoup ça au début. Il disait, la semaine prochaine, je vais être dans telle ville. Je vais être à Des Moines, en Iowa. En fait, je ne sais même pas s'il y a des shows d'humour à Des Moines, en Iowa. Ou même s'ils ont le sens de l'humour. Mais bref, la salle se remplissait. Et il a reparti beaucoup, beaucoup sa carrière avec ça, d'amener des gens à ses shows. Ce qu'il faisait aussi, c'est que avant de faire exclusivement des entrevues, il enregistrait le podcast durant ses shows, donc durant un bout où est-ce qu'il parlait avec les autres invités qui faisaient le show ce soir-là. Donc, c'était vraiment assez intéressant. Donc, il y a plusieurs podcasters aux États-Unis qui font ça. Il y a aussi le fait d'enregistrer son podcast devant public, donc enregistrer spécialement un podcast et faire payer pour ça. Je reviens à Adam Carolla, il fait ça aux États-Unis, il enregistre devant public une fois par semaine, charge 25 $ par tête de pipe et prend 80% des revenus à la porte. Donc ça lui fait entre 7 et 10 000 $ par show, en plus des produits dérivés qu'il vend à la porte. Donc il fait ça une fois par semaine. On peut penser qu'il va se chercher 12 à 15 000 $ par semaine. Et ça, c'est juste pour faire un show de podcasting devant public. Il y a aussi Mike Ward qui a cette technique-là pour l'enregistrement des podcasts au Bordel Comedy Club. Il dit qu'il enregistre le podcast devant public et les gens y vont. Il y a un cover charge qui, je ne me rappelle pas, c'est 5 ou 7 $ C'est minime, c'est en bas de 10 $ et ça sert à payer son équipe et entre autres notre ami Yann Thériault qui est le gars de la technique et réalisateur du podcast de Mike Ward que je salue au passage. Une bonne façon de faire des sous, c'est de vendre directement son contenu, donc vendre ses épisodes. Il y a This American Life qui fait ça. Quand le show a une semaine, quand le nouvel épisode arrive, il enlève l'ancien. Et cet ancien-là se retrouve vendu un peu de la même façon qu'ils vendent une chanson sur iTunes, donc à 99 sous. Sinon, ils nous permettent de l'acheter directement dans leur application. This American Life a une application, donc on peut acheter le podcast là. On peut aussi vendre du contenu premium. Donc, il y a un gars aux États-Unis que je me rappelle, il vendait des épisodes pour aider les gens à se préparer aux examens d'actuariat. Donc, ceux qui sont en finance savent de quoi je parle. Il y a toujours des examens. Plus on avance dans notre carrière. Donc, son podcast gratuit parlait du sujet, mais son contenu payant disait exactement comment réussir, comment se préparer à ça. Il y a aussi notre ami Pierre Journel en France qui était ici avant à Montréal, qui produisait son podcast, le PCC, le podcast de la cabane au Canada, qui a commencé son podcast de guitare qui s'appelait La chaîne guitare, qui a décidé de développer un modèle d'affaires. Donc au début, il faisait un podcast entièrement gratuit avec des entrevues, tout ça, puis à un moment donné, il a dit non, je veux que ça devienne, c'est ma passion, je veux que ça devienne aussi ma job. Donc, il y a des contenus ou des previews qui sont gratuits. Donc, on voit un peu un preview de ce qui va se passer dans l'épisode. Et les gens peuvent s'abonner et là, avoir accès à tout ça. Ils n'ont pas juste accès à des épisodes, mais ils ont accès à ce qu'ils appellent des masterclass, donc des classes de guitare, des cours de guitare avec des professionnels qui montrent leur technique à eux. Pierre a interviewé à peu près tout ce qui se fait de bons guitaristes sur la planète et travaille extrêmement fort pour que ça réussisse. Puis si vous êtes un fan de guitare, vraiment, vraiment, allez faire un tour. Une autre façon de faire des sous, c'est d'avoir une application. Donc, une application qui est payante, par exemple, à l'acquisition. Donc, on peut vendre notre application pour notre podcast qui se vendrait peut-être, je ne sais pas, $2,99 sur iTunes. Ou sinon, on peut avoir une application qui est gratuite, mais qui permet d'acheter des anciens épisodes à la pièce. Donc, c'est la formule que This American Life fait que je parlais tout à l'heure. On peut aussi vendre ses produits. Donc, vendre des produits, pas des produits dérivés du podcast, mais vendre vraiment des produits à soi. Faire du e-commerce. Il y a plusieurs personnes qui se servent du podcast comme moyen de faire connaître leurs choses. Donc, vendre des produits directs, soit avoir une boutique à soi et la promouvoir avec son podcast. On peut faire aussi ce qui s'appelle aux États-Unis du drop shipping. Donc, on annonce des produits et un marchand l'envoie, mais avec l'étiquette de notre marque à nous. C'est comme moi si je vendais des micros avec un autocollant dessus Québec Balado. Donc, le micro Québec Balado pour sonner comme Sylvain Grandmaison dans son podcast. Ouais. Ça serait probablement des micros Electro Voice, ça serait des RE27 et ça coûterait probablement 600-700$. Il n'y aurait pas beaucoup de gens qui en achèteraient, mais quand même, ça serait de la qualité. Donc, c'est ça, les marchands en ligne, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont du stock. Vous faites produire vos étiquettes ou vous faites sérigraphier et eux stampent ça sur le produit. Donc, ça fait vraiment le tour des façons de faire de l'argent direct et indirect avec le podcast. La dernière façon de faire de l'argent avec le podcasting, c'est de se faire engager tout simplement. Se faire engager par qui? Bien, par une entreprise à titre d'employé pour animer ou pour réaliser des podcasts. Auparavant, c'était des entreprises, je dirais plus traditionnelles, qui pouvaient nous engager dans leur équipe de médias sociaux pour produire des podcasts. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises de podcasting qui engagent des gens parce qu'ils réussissent à faire beaucoup d'argent avec la publicité. J'ai déjà parlé de Gimlet Media qui ont publié une offre d'emploi pour Ma Job de rêve. C'est-à-dire, ils vont produire un podcast qui est un sujet de podcast que j'ai toujours rêvé de produire. J'aurais aimé ça aller travailler à New York d'ailleurs. Il y a aussi le New York Times qui produit des podcasts. Il y a, je pense, Bloomberg. Bref, il y a plein d'entreprises de médias traditionnels qui produisent maintenant des podcasts qui engagent des gens. Si l'aventure vous intéresse, vous pouvez aller vivre aux États-Unis. On peut aussi se faire engager comme consultant pour produire des podcasts quand on est assez talentueux et quand on sait comment bien faire sonner les autres. C'est ce que je fais. En fait, c'est un hasard. Je dis jamais, j'en ai quelquefois parlé, effleuré le sujet à l'émission, mais c'est très rare j'en parle. Pourquoi les gens m'embauchent? Bien, c'est parce que j'ai un podcast qui sonne bien. C'est relativement structuré. C'est voulu que ce soit légèrement lousse comme ça. C'est le ton que j'aime donner à mon podcast. Et les gens me demandent d'en produire pour eux. Souvent, c'est la même approche. Les gens m'envoient un message, me disent « Ton podcast sonne bien, c'est structuré, c'est bien produit, tu donnes des conseils, sais-tu qui peut m'aider à produire des podcasts? » Et bien, la réponse, c'est moi. Bref, je n'ai jamais sollicité personne. Je n'ai jamais envoyé des messages pour dire « Hey, je vais te produire des podcasts. » Non, je n'ai jamais fait de pub, mais j'ai payé tout mon équipement de podcasting avec ça. Mes upgrades, ça a aussi payé ma participation à quelques événements et en partie certains voyages personnels que j'ai faits. Donc oui, ça peut être une façon de faire des sous avec le podcasting. On peut aussi se faire engager par une radio et ça se produit de plus en plus. Comme par exemple, les gens de la soirée T'es encore jeune, ils avaient démarré le Sportnographe. Et le Sportnographe, c'était pas à Radio-Canada, c'était un podcast, c'était indépendant. Ils ont parti ça, ensuite ça a été amené à Radio-Canada et ensuite ils ont démarré la soirée T'es encore jeune. Moi, dans une moindre mesure, j'ai déjà fait des chroniques à Radio-Canada où est-ce que j'étais payé. C'est pas une fortune, là, mais peut-être une couple de 100$, je ne me rappelle plus par combien par semaine ou je ne sais plus trop. J'en ai fait aussi à Cogeco, j'ai fait des chroniques vidéo à Cogeco. Donc, c'est une bonne façon de se faire engager et si c'est votre passion, moi, je vous dis de sauter là-dedans. On peut aussi vendre des formations. J'ai déjà fait des formations à l'occasion. Ça non plus, je n'ai jamais sollicité personne. Je sais qu'il y a des gens qui le font, qui forment des gens en podcasting. J'en connais quelques-uns, surtout aux États-Unis. Sinon, on peut aussi faire du coaching. Du coaching de quoi? Ben oui, du coaching de podcasting, mais du coaching dans votre domaine spécialisé. C'est une autre façon de vendre son savoir-faire. Simplement de dire, regardez, j'ai un podcast là-dessus, c'est ma passion, je m'y connais, j'offre mes services de coaching, je peux vous coacher et ça peut faire un revenu qui est récurrent. Voilà, ça fait vraiment le tour de tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la publicité, la rémunération, l'argent et le podcasting. J'espère que j'en ai couvert le plus large possible. J'ai peut-être oublié certaines petites choses. Si vous avez des précisions, si vous avez de l'information ou des suggestions à m'envoyer, n'hésitez pas. quebecbalado@commercial.gmail.com. Si vous voulez, je vais vous parler un petit peu de mes observations et de ce que j'ai vu aux États-Unis. Souvent, les podcasters qui réussissent à gagner leur vie avec ça, évidemment, ils ont un bassin d'auditeurs quand même important. Mais ce qu'ils font pour réussir à bien faire des sous, c'est qu'ils combinent l'ensemble de ces stratégies-là. Et même à l'intérieur de ces stratégies-là, ils en exploitent plus d'un. Par exemple, la publicité, les codes promo. J'ai vu un gars qui avait plusieurs sortes de codes promo pour différents services. plusieurs types de publicité, de la publicité sur le site, de la publicité dans le texte, de la publicité en audio dans le podcast, etc. Donc, vraiment de diversifier, si vous voulez faire des sous avec ça, c'est vraiment de ne pas se concentrer sur juste une source de revenus, une façon de faire, mais vraiment aller en chercher le plus possible. Et il y a même un podcaster qui fait, je ne me rappelle plus de mémoire, mais tu sais, c'est autour de 24 000 $ par mois de podcasting. Et comment il fait? Ben souvent, c'est 200-300 pièces de GoDaddy, des pubs en bannière, 30 pièces, les publicités en fichier dans son fichier audio. Il va se chercher quelques milliers là. Bref, en allant en chercher plein comme ça, il réussit à se tirer un assez gros salaire. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, québecbalado@gmail.com. Et n'oubliez pas, allez mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes ou dans l'application podcast ou iOS. Vraiment, c'est mon salaire. Je vous dis à très bientôt. Il y a d'autres émissions qui s'en viennent sur d'autres sujets très variés par rapport au podcasting, toujours. Je vous dis à très bientôt. Ciao!